pour elle d'avoir une accroche avec l'Église, de se présenter avec une demande concrète. Et elle me dit sa souffrance de trouver dans le monde médical trop d'approches techniques et pas assez d'humain au sens fort. Elle dit je suis engagée dans la voie de la médecine pour servir des personnes et je me retrouve dans une ambiance de technique, une aspiration spirituelle, alors je reviens vers l'Église. Un autre exemple, Isabelle, étudiante, demande le baptême à partir d'expériences spirituelles, familiales, liées à des dons, je précise pas forcément trop, des flashs qu'elle a sentis sur des événements futurs qui l'ont un peu troublée. Voilà, une expérience qui évoque tout ce monde en recherche spirituelle un peu dispersé. Et avec des expériences comme ça, elle a vu des livres, des émissions de télévision, et résonne avec ses expériences. Donc elle a cherché un peu à droite à gauche, et finalement c'est vers l'Église qu'elle se tourne, parce que dans sa famille, on parlait en bien de l'Église catholique. Troisième exemple, Emmanuel, retraité, engagé dans la paroisse, il a été enthousiasmé par le témoignage d'une jeune malade, c'est un film, j'ai vu un débat avec la personne qui était filmée, qui était partie faire de la méditation orientale en Birmanie. On évoque tous ces chrétiens qui sont attirés par des mouvements spirituels non chrétiens, qui parfois nous interpellent et nous disent « Tiens, il y a dans ces mouvements-là quelque chose qui respire le spirituel, peut-être qu'on n'a pas trouvé dans l'Église catholique et on a l'impression qu'ils vont plus loin que nous. On allait voir un peu de ce côté-là. Religion orientale, méditation, yoga. Ce sont des besoins spirituels, religieux, parfois aussi, qui s'expriment. Quatrième exemple, Nadège, une paroissienne en précarité, une grande précarité, qui sent un manque d'hygiène et même incommodant, mais qui est une personne pieuse, une piété simple, et qui arrive à convaincre une de ses amies de demander le baptême. C'est bon. Seulement quand elle arrive avec cette amie dans l'équipe de catéchuménat, Nadège, tout le monde pousse un peu sa chaise comme ça, tout le monde ouvre la tête, on se dit est-ce qu'elle va avoir sa place dans notre équipe d'accompagnement du catéchuménat. Et pourtant, une personne qui, déjà par sa vie personnelle et par son engagement auprès de cette autre amie qu'elle amène au catéchuménat, témoigne d'une vie spirituelle, d'une vie religieuse. Qui a comme des merveilles au-dessus. Voilà, quelques exemples que je vous propose de continuer avec vos propres exemples. Alors, pour faire ces exemples, en fait, vous savez, comme ça arrive parfois, ces exemples, on ne va pas forcément tous les faire remonter parce que ce serait sans doute long, même si ça vaut la peine. On va prendre du temps quand même pour ça. On verra, j'ai prévu qu'on puisse aller jusqu'à 19h avec le partage pour démarrer sur les choses concrètes. Bon, pas tout à fait jusqu'à 19h, jusqu'à moins 10. Donc, on a presque un quart d'heure devant nous pour un partage d'expériences, de cas concrets, qui non seulement va nous permettre d'avoir beaucoup plus que les 4 petits exemples que j'ai donnés, et pour chacun aussi de se dire, en fait, les besoins spirituels, ça me fait penser à qui? Quels sont les visages? Quelles sont les personnes chez qui j'ai senti un besoin spirituel ou religieux qui m'a interpellé, qui m'a questionné? Je vais me mettre en haut et je vais vraiment accueillir une parole de plus. Voilà, peut-être que à Vannes, ce partage il pourrait se faire en petits groupes, parce que si vous faites le tour complet de 40 personnes, ça va être très long. Hein, mais peut-être que le partage, on pourrait faire en petits groupes de 6. Hein. Voilà, au moins vous aurez vos propres exemples, vous aurez mis en route un questionnement personnel, et puis vous aurez une ouverture pour faire d'autres exemples. Et simplement, on pourra faire une remontée après des principaux exemples. Alors, vous voyez la consigne que je vous donne. On ne va pas faire ça à chaud comme ça, parce que sinon, c'est comme je l'ai fait malheureusement, mais on ne peut pas tous le faire. Quand on commence à parler, on n'en finit plus. Donc, en deux phrases maxi. Une personne qui témoigne d'une demande spirituelle ou religieuse. Qu'est-ce que j'ai observé? Il a demandé ça, il a dit ceci. Quel est le besoin qui a été pris en compte, qui a été exprimé, qui a été non pris en compte, non exprimé? Qu'est-ce qui a posé problème? En deux, trois phrases. Alors, oui.
Voilà. Je n'ai jamais su comment elle savait que moi, je faisais partie de la paroisse et que ce dernier avait un peu de bataille, de futur baptisé. Et puis le problème aussi, ça a été d'avoir la forme de ses parents, qu'elle était mineure.
C'est totalement une réponse. Alors. Dans notre groupe, on a eu plusieurs partages. Si je prends le texte, c'est pas facile. Dans plusieurs des exemples qui ont été donnés dans le groupe ici à Lorient, ce qui m'a frappé, c'est plusieurs exemples où il y a des besoins auxquels on n'a pas su répondre. Que ce soit dans une préparation mariale, il y a quelque chose qui a démarré, on n'a pas su donner une suite. Des questionnements très compliqués et très exigeants auxquels on n'a pas forcément les réponses et on ne sait pas très bien comment faire. Ou bien, mais aussi des exemples où justement il a fallu un petit quelque chose, un petit contact, une disponibilité pour pouvoir répondre à une personne, à la messe, qui exprime un besoin, une recherche. Et puis, il a fallu être là pour lui répondre, pour prendre la perche et l'amener à faire une démarche. Voilà, et merci, ça permet de donner beaucoup de relief à cette question. Et donc, c'est à partir de ça que je vais vous apporter quelques éléments que j'ai préparés. Et je pensais que pour bien commencer, on allait accueillir la parole de Dieu. C'est parti des bons réflexes, de toute réflexion, de toute formation. S'il y en a qui sont intéressés, je pourrais vous passer les documents. Je ne sais pas si Hortense peut faire passer les documents aux étudiants.
Oui, sans problème. Enfin, il n'entend pas. Oui.
On va faire passer le PowerPoint, oui. Parce qu'il n'y a pas grand-chose, simplement ici le texte de l'Évangile, qui était l'Évangile du dimanche du Christ roi. Jésus qui rencontre Pilate, et on avait eu un petit extrait du dialogue, où il est question de sa royauté, j'avoue que j'ai eu l'occasion de méditer cet Évangile, pour une rencontre du catéchuménat, une rencontre de rentrée du catéchuménat. Et en fait, cet évangile m'a beaucoup interpellé en me disant, voilà, cette phrase quand Jésus dit « Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix », vous pensez à ces catéchumènes qui ont entendu une voix, qui ont été touchés par une parole, parfois une parole, parfois une parole indirecte, hein, une parole par une ambiance, par le climat de l'Église, par le sourire d'une personne, c'est un message, hein, un message qui les a touchés, et ils y ont reconnu une voix qui vient de plus loin. Ils ne sont pas seulement dit, tiens, ils avaient vraiment sympa, à partir du moment, c'est ma copine, et puis on va y prendre des cafés ensemble toutes les semaines, quoi. Ça l'a tiré vers quelqu'un d'autre, quoi. On a fait signe d'un besoin spirituel, d'un besoin religieux. Ça va, c'est, oui. Alors, on lit le texte. Hein. Donc, Jean chapitre 18, versets 33 à 35. Alors Pilate entra dans le prétoire, il appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda, « Dis-tu cela de toi-même ou bien d'autres te l'ont-ils dit à mon sujet ?» Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et tes grands prêtres sont livrés à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus déclara, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit, « Alors tu es roi ?» Jésus répondit, « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Donc, pas d'entre nous, on a eu l'occasion d'entendre ce texte et d'entendre un commentaire de ce texte, une homélie sur ce texte il y a 15 jours. Pour notre rencontre de ce soir, voilà ce que je vous propose comme élément, comme éclairage à accueillir de la part de ce texte. La première question que pose Pilate, c'est « Est-ce que tu es roi des Juifs ?» C'est-à-dire qu'il regarde la question qui agite tous ces gens comme la question d'un problème religieux. Il y a ces gens de la communauté religieuse des Juifs, il paraît qu'ils ont un roi, ils font des trucs entre eux, ça ne l'intéresse pas trop, mais ils regardent ça de l'extérieur. Ils regardent le monde des Juifs de l'extérieur, le phénomène religieux juif de l'extérieur. Si je dis ça, c'est parce que, regardez la question qu'il pose Jésus. Est-ce que c'est toi qui le dis ? Ou bien est-ce que c'est d'autres qui te l'ont dit ? En fait, Jésus lui demande, est-ce que ça t'intéresse vraiment ? Est-ce que tu regardes ça de l'extérieur, un phénomène religieux ? Ou bien est-ce que c'est une question qui est ta question ? On dit que Jésus pouvait avoir un regard particulièrement affûté, et Pilate, à travers ce dialogue, certains ont reconnu une démarche du stoïcisme cicéronien, qui était très répandue dans le monde romain à cette époque-là, et qui est une démarche de recherche de la vérité, une remarque quelconque, mais qui est plutôt sceptique et, morale, surtout basée sur la morale plus que sur une recherche de vérité ou encore moins religieuse. Donc Jésus le questionne sur sa recherche à lui. Quand on se retrouve face à des personnes qui sont capables de nous sortir des encyclopédies sur la religion, qui en connaissent beaucoup plus que nous, on peut les renvoyer à cette question. En fait, quelle est vraiment votre question ? Qu'est-ce qui vous intéresse vraiment là-dedans ? Capable de citer tous les philosophes de la Terre, tout ce qui se passe aux quatre coins du monde en termes religieux, mais vous, votre expérience religieuse, votre expérience spirituelle, votre question sur le sens de votre vie, c'est quoi ? Dis-tu cela de toi-même ? C'est le premier point que je relève dans ce thème. Dans le deuxième point, Pilate reprend la parole. Après, dans ce texte, il y a trois questions. Hein, trois questions, trois réponses. D'ailleurs, souvent, Jésus répond à une question par une autre question. Le deuxième échange, c'est Pilate pose la question « Qu'est-ce que tu as fait ?» Il pose la question du « faire ». La question, on pourrait dire « Quelle est ta pratique ?»« Qu'est-ce que tu fais ?» Et si Pilate s'intéresse au visible, Jésus, dans sa réponse, il dit « Ma royauté n'est pas d'ici. » Il se place sur un autre plan. Ma royauté n'est pas d'ici. Si ça avait été une question pratique, bon, ben, je l'aurais résolu sur un mode pratique. Il y a des gens qui sont venus, des gardes, pour que je ne sois pas libre. Mais ce n'est pas ça le sujet. Si tu veux qu'on discute, Si tu cherches quelque chose dans les discussions avec moi, il va falloir se placer sur un autre plan. Pas seulement sur le plan du faire. Même si tu es religieux en termes de pratique. Et troisième point, finalement, Pilate, peut-être qu'il est un peu perdu avec tout ça, ça ne répond pas trop à ses questions, il a envie d'essayer de placer l'affaire, il va dire, voilà, tu es roi, tu es pas roi. Et dans cette question, moi, je vois Pilate qui cherche à cerner le problème, il veut circonscrire le problème, il faut comprendre son job. Hein. Mais même si c'est son job à lui, Jésus, il s'adresse à lui non pas comme un gouverneur, il s'adresse à lui comme un homme, et à travers lui, il s'adresse à nous. Et donc, il dit à Pilate, tu cherches à cerner le problème, et bien moi je vais ouvrir le problème. Tu cherches à fermer la question, moi je vais ouvrir ta question. Donc, tu dis toi-même que je suis roi, mais maintenant je vais te parler de ce que c'est que la vraie royauté. Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Et Jésus fait voler en éclats complètement tous les cadres dans lesquels on essaie de l'enfermer pour rejoindre non plus une catégorie, tu es roi ou tu n'es pas roi, c'est où ta case, mais pour rejoindre ce qui est au cœur de tout homme, la recherche de la vérité. Tout homme a un lien avec moi. Tout homme a un lien avec Dieu. C'est dans son essence. Pas une question de la catégorie, est-ce que je suis roi de ce petit groupe, mais tout homme a un lien avec Dieu qui existe. Et Jésus vient incarner ce lien dans sa personne. Ouais. La vérité de Jésus, ce n'est pas un dogmatisme écrasant comme on pourrait lire, voilà, prétend avoir la vérité. C'est un peu gonflé quand même. Quelqu'un qui dit, moi j'ai la vérité, je sais tout, je vais vous expliquer la vie, bien, on commence par se méfier. Ou bien quand la religion catholique dit au monde, nous avons la vérité, nous allons vous expliquer ce que c'est qu'une vie bonne, il y a beaucoup de gens qui sont très très méfiants. Au niveau de cette religion-là, qui prétend avoir le dernier mot sur tout et tout savoir sur tout, nous, on a déjà par notre expérience fait l'expérience que la vie était plus compliquée que ça. S'il y a des gens qui nous disent, à coup de dogme et catéchisme, on va tout vous expliquer, c'est pas là qu'on ira chercher. Il faut comprendre. Jésus, quand il dit je suis la vérité, il ne dit pas je suis le catalogue des vérités, mais il dit la vérité c'est moi. La vérité c'est lui. Pour nous chrétiens, pour nous catholiques, à chaque fois qu'on est confronté à une question, à une recherche, un besoin spirituel, c'est bon de se dire que, bien sûr, il va falloir voir dans quel groupe de café on va faire entrer, si on peut répondre à sa demande de faire une équipe d'accompagnement pour la confirmation pour le baptême, quel bouquin on va lui donner pour l'éclairer, mais c'est bon de se dire, en fait, la première question, c'est comment est-ce qu'on va mettre en contact avec Jésus? Parce que Jésus, c'est lui qui répond à cette question. Et tous les moyens ne sont que des moyens de le mettre en contact avec la personne de Jésus. Voilà. Alors, je vais maintenant prendre un temps d'enseignement un peu plus fondamental, si vous voulez, anthropologique, besoin spirituel et religieux de la personne, sans avoir la prétention de faire le tour de la question. Comme je l'ai dit au début, c'est trop vaste. On aura un temps de questions un peu prolongées à la fin. Espérons qu'on y arrivera avec les difficultés techniques qu'on rencontre. Si vous avez des questions, que je vous propose, hein, c'est de les noter au fur et à mesure. Peut-être qu'il y a une question, tiens, sur tel point, ce serait une question à poser. Là, il allait trop vite, je vous donne un éclaircissement sur telle ou telle question, au fur et à mesure, vous mettez des petits points d'interrogation dans votre marge, pour qu'on puisse à la fin et enfin ouvrir cet échange. La deuxième remarque que je fais aussi, hein, c'est que dans la suite de votre parcours, quelle que soit l'option que vous avez prise, il y aura un prolongement qui va se faire à ce que je vous apporte. Dans le parcours santé et accompagnement, vous aurez la rencontre numéro 7 qui sera besoin spirituel, laïcité en établissement public. On n'est pas très loin quand même de cette question. Et dans le parcours charité, fraternité, migration, vous aurez la rencontre numéro 5, accompagnement humain et spirituel. Accompagnement humain et spirituel, on est bien dans la question de la prise en compte des besoins aussi spirituels, et donc religieux et versables. Voilà. Donc il va y avoir une suite, mais il y a aussi eu un précédent. Et c'est peut-être par là que je vous propose de démarrer mon enseignement, d'abord. C'est le lien avec l'Athénée 1. Je ne vais sans doute pas redire ce qui vous a déjà été dit, mais les thèmes que vous avez parcourus l'année dernière, je trouve, me paraît très inspirant pour la question quels sont les besoins spirituels et religieux des personnes. Vous avez commencé par un premier cours où la question c'était qu'est-ce que l'homme ? Philosophie. Vous avez d'abord la philosophie de l'homme et la philosophie de la nature. Philosophie de l'homme, c'est un peu ça la question qu'est-ce que l'homme ? Comme le demande Socrate. Et voilà, vous avez certainement eu un éclairage sur le fait que l'homme est un être profondément spirituel. L'homme est un être spirituel. On est homme parce que spirituel, si on veut. Et ce qui nous distingue des animaux, c'est pas qu'on est plus intelligent et qu'on est capable de faire des maisons plus élaborées qu'eux. Vraiment nous distingue les animaux, c'est que nous sommes des êtres spirituels, capables de vérité et d'amour. Alors, je m'explique pour ceux qui ont un amour inconditionnel et immense pour leur petit chat ou pour leur petit chien, c'est pas le même amour. Il y a beaucoup, énormément d'affection, ça peut être très très important pour certaines personnes, l'affection de leur petit chien ou de leur petit chat, est tout à fait respectable. Mais ce n'est pas le même amour, ce n'est pas la même vérité. On est fait pour la contemplation et pour un amour qui est agapé, c'est-à-dire qui est un amour au dimension de celui qui nous a créé. On est attiré par les choses qui ne, voient pas, qui ne se voient pas, attiré par les étoiles, les voiles, comme disait l'autre. Et on est capable de remonter à la source, de ce qui nous constitue, et donc de celui qui nous a constitué, et cette source que l'on nomme Dieu. Donc, toutes les traditions religieuses nomment Dieu, de manière ou d'une autre. Voilà, l'homme est un être spirituel. Je citais en introduction cette personne dans le milieu médical, un peu dégoûtée par le matérialisme. Régulièrement, des exemples de personnes qui, à un moment, font une démarche spirituelle, pour une expérience spirituelle et se retrouve dégoûté du matérialisme. Je pense récemment, il y a peu de temps, il me disait plus ça va, plus j'en ai marre de ces fêtes de Noël où il faut aller faire du shopping pour faire des piles de cadeaux. Enfin, j'aspire à autre chose. Je crois que c'est la messe de la fin de dimanche dernier. Les personnes qui se lancent dans les. Achète des bouquins dans les rayons spiritualité des supermarchés ou hein, des centres culturels, et ça marche très bien. Beaucoup, beaucoup de rayons, beaucoup, beaucoup de livres, c'est des personnes qui sont en recherche de cette dimension spirituelle qui les constitue, qui l'ont découverte. Évidemment, nous, ça nous pose la question, mais de quoi est-ce qu'on parle de la même chose avec eux? Il parle de spirituel, mais de quel spirituel ? Il parle de Dieu, mais de quel Dieu ? Comment est-ce qu'ils le connaissent ? Quel est le Dieu vers qui ils vont ? On n'est pas seulement des êtres spirituels individuels, mais puisque Dieu est en relation avec toute l'humanité, s'il y a un Dieu, au moment où on découvre qu'il y a un Dieu, on découvre que c'est même pour tout le monde. Et donc on est solidaire dans cette recherche. Donc, on est solidaire de toute l'humanité, qui recherchent Dieu. On a un lien avec les, on a un lien les uns avec les autres. Parce que vous savez, la religion, ça veut dire, une des étymologies de religion, c'est relier. Être relié. Donc il y a une démarche de spirituel devient religieuse. Le deuxième point, c'est l'homme est un être religieux. Dans le cours Athénée numéro 1, vous avez eu des éléments sur les pères de l'Église, la christologie, l'art sacré. Autant de choses qui nous parlent d'une communauté croyante qui se construit, qui construit sa foi, qui met des mots sur sa foi, qui pose des gestes, et des gestes qui se transmettent pour vivre sa relation à Dieu. Et pour concrétiser cette présence de Dieu dans une vie qui n'est pas que personnelle, mais qui est sociale. L'homme est religieux parce que social. Notre recherche spirituelle, elle se manifeste avec le partage, elle se vit en famille, elle se vit en société. Quand on prépare les enfants au baptême et qu'on demande aux parents pourquoi est-ce que vous demandez le baptême de votre enfant, on n'ose pas leur dire pourquoi est-ce que vous demandez le baptême de votre enfant alors que vous ne mettez pas les pieds à l'église. Pourquoi est-ce que vous mettez vous demandez le baptême de votre enfant alors que, avec un peu de chance, avec vos collègues, vous êtes athée. Et bien la réponse qu'ils disent à tout d'arrivant, c'est parce que ça fait partie de la famille. Dans notre famille, on fait ça. Et on a envie que notre enfant fasse partie de cette famille où il y a du religieux. Non, c'est insuffisant. Hein. Mais ça nous dit quelque chose de l'homme. L'homme est un être religieux. Vous savez que, en philosophie, la vertu de religion, ça fait partie de la vertu de justice. Ça fait partie de la justice. La justice, c'est rendre à chacun ce qui lui convient. Et donc, à partir du moment où on a pris conscience de l'existence de Dieu, eh ben, on doit rendre à Dieu ce qui lui convient. Et s'il est notre créateur, comme créature, on doit lui rendre hommage, on doit lui rendre adoration, on doit lui rendre respect. C'est justice. Et c'est quand ça concerne Dieu qu'on appelle la vertu de religion. Et on doit le rendre non seulement individuellement, mais on doit le rendre socialement, en groupe, dans une manifestation de groupe, de société, de famille, de société. C'est très beau, par exemple, de voir, très intéressant, de voir, quand il y a un coin de prière dans une famille chrétienne, de ce point de vue-là, les orientaux, souvent, sont assez impressionnants. L'autel de la famille, les liturgies familiales, elles sont encore beaucoup plus développées que les liturgies familiales, souvent, chrétiennes et catholiques. Je vais donner comme exemple. Voilà. Alors, nous, ensuite, si on veut faire un pas de plus, hein, on n'est pas seulement religieux, on est chrétien. Et être chrétien, pour beaucoup, ça commence par un héritage, une tradition, une transmission. On a reçu ça, on a reçu un héritage, on a reçu un patrimoine de foi, de connaissance de Dieu, de sens de la vie à la lumière de cette foi. On en est héritier et on se l'approprie. On est héritier d'une histoire dans ce domaine-là, comme dans les autres domaines. Je crois que c'est important aujourd'hui. Notre état, on prend de plus en plus conscience, parfois avec des tensions, on a eu une telle partie d'héritage. Napoléon, on garde ou on ne garde pas. Voilà, il y a parfois des questions sur ce qu'on a envie de garder, sur ce qu'on n'a pas envie de garder, mais notre société sent qu'elle a besoin de se faire héritière. Voilà, on est héritier de Joséphine Baker, par exemple, c'est très important. Alors on la met au Panthéon, pour se souvenir que dans notre histoire, il y a eu une femme de couleur noire qui a pu apporter quelque chose à notre culture. Il faut que vous souveniez, on la met au Panthéon. Voilà. Bon. Alors, comme chrétien, on est héritier d'une histoire, c'est ce que vous avez vu encore une fois avec le père de l'Église, avec l'art sacré aussi. mais aussi avec cet héritage vivant qui est l'héritage d'une réflexion éthique, l'écologie, un héritage de foi et raison, l'articulation entre la foi et la raison, la liturgie. Ça, c'est des choses qui se construisent et qu'on reçoit. Le christianisme, il imprègne profondément notre société. Hein. Plus tu l'occasion d'y réfléchir, d'en prendre conscience. Et si le christianisme imprègne profondément la société, ça veut dire que beaucoup de personnes sont entre guillemets croyants sans le savoir. C'est-à-dire qu'ils ont Dieu dans leur vie sans le savoir. Par exemple, les droits de l'homme, j'ai eu un cours encore tout récemment. Mon parcours de formation que je suis, il nous disait à quel point les droits de l'homme sont une charte chrétienne. Et au moment où ils les ont édités, il a été question que dans les droits de l'homme, on parle de Dieu. Seulement, ça a été fait au moment où on sortait de la guerre et où les communistes, ils se revendiquaient athées, ils disaient attention, il ne faut surtout pas qu'on mette Dieu là-dedans. Donc on n'a pas mis Dieu. Mais le communisme, qu'est-ce que c'est? C'est une réaction en Orient, en Russie, à une société complètement imprégnée de christianisme. Le communisme naît là-dedans. Le communisme naît en réaction. Donc le communisme existe par rapport au christianisme. Et sans le christianisme, il n'y a plus de communisme. Le communisme, c'est... une mauvaise réponse à la question de Dieu. Mais ça veut dire qu'il y a la question de Dieu derrière. Voilà, bon, tout ça pour dire que le christianisme imprègne la société. On est héritier d'une histoire. L'homme est héritier d'une histoire. Croyant ou non croyant, aujourd'hui, ceux qui le sont le moins, ce sont pas ceux qui disent « je ne crois pas en Dieu, je crois qu'il n'y a pas de Dieu ». C'est ceux qui malheureusement disent « ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas, j'en ai pas besoin ». Ça, c'est le pire. Ceux qui disent « j'en ai pas besoin, j'ai pas besoin de ce côté-là ». Et souvent, ceux qui disent « j'en ai pas besoin », alors peut-être qu'on a des bémols, hein, parce que tout à l'heure, il y avait un cas qui pourrait être un bon exemple, mais c'est des personnes qui ne vont pas non plus avoir besoin de culturel, de... C'est quand on est trop pris par le confort, le matérialisme, les choses matérielles, à ce moment-là, on décroche cette ouverture aux religieux et à notre tradition. Voilà. Voilà pour l'accroche avec Athénien. Bon, on va prendre une pause. Et maintenant, le pas supplémentaire que je vous propose, c'est celui d'aborder les différentes situations de recherche, d'expression de besoins spirituels ou religieux, avec leur diversité, leur complexité, comme je le disais au début, et que j'ai regroupé en trois types. Le premier type de besoin, c'est la dernière partie, de ces trois points-là. Avant des questions, si vous souhaitez. Le premier type que je vous propose de regarder, c'est les personnes qui sont en recherche de sens. Personnes qui sont en recherche de plus que le matériel. Alors, quand on entre dans la librairie ex la procure de l'Orient, Chantal et Philippe, si ils nous entendent, je ne vais absolument pas dire de mal de cette librairie, c'est tout à fait respectable, et qui a un très bon rayon catholique, mais aujourd'hui, l'ancienne procure de l'Orient peut nous effrayer comme catholique. J'avais été la procure ? Elle s'est indépendante, comment est-ce que vous dites peut-être ? La librairie Sainte. En tout cas, c'était la librairie Sainte. Oui, c'était une librairie catholique. Et la librairie, donc, commence par rentrer sur la gauche, avec, sur la droite, avec toutes les méthodes pour faire du tarot, de la voyance, ensuite il y a le chamanisme, ensuite il y a toutes les spiritualités orientales, il y a, bon bref, toutes les ouvertures de chakras et de l'amour. Voilà. Ça ne nous réjouit pas tellement. Heureusement, on trouve aussi nos rayons, et quand on va acheter des villes, des catéchismes, on les a aussi. Et pourtant, quelqu'un qui cherche dans ce domaine-là, qui cherche un sens à sa vie, et qui perçoit que le sens de sa vie est spirituel, il faut commencer par accueillir et par dire que c'est bien chercher du spirituel dans sa vie. Il faut commencer par là. Il y a quelques années, la congrégation pour, c'est la doctrine de la foi, en tout cas une congrégation du Vatican, a publié un livre, Jésus source de vie, source de vie, plus source de vie, je ne sais plus, Jésus-Christ source de vie, pour donner une vision sur le New Age. Et sur toutes les pratiques qui tout tournent autour du New Age. Il commence par dire que c'est un univers extrêmement complexe et extrêmement divers, qu'on ne peut pas du tout classer rapidement dans telle ou telle case. Et ce document, évidemment, va être assez critique sur le New Age, qui comporte vraiment des choses très très problématiques, qui amènent même à des comportements sectaires dramatiques, hein, avec des suicides collectifs, avec des choses absolument abominables. Hein. Ce texte commence par valoriser, par dire de ne pas oublier de valoriser tout ce qui peut l'être. Tout ce qui peut être valorisé dans cette recherche, il faut commencer par le reconnaître, et par l'accueillir. Par exemple, quelqu'un qui dit « Moi, j'ai découvert la méditation orientale, le yoga par exemple, et ça me parle parce que je prends des longs temps de silence, de méditation. Ben, on peut dire, quel dommage qu'elle n'ait pas découvert ça dans l'Église catholique. quel dommage qu'elle n'ait pas découvert que Jésus passait des nuits entières à prier et qu'il n'y avait pas besoin de méditation orientale pour ça. Quel dommage que l'Église catholique n'ait pas offert une école de prière à ces personnes. Aujourd'hui, on va voir Saint-Anne-d'Arbor de l'Orient. Un groupe de méditation chrétienne qui donne une version chrétienne de ce genre de méditation. Mais voilà, cette personne a eu raison de chercher dans son sens. Dommage qu'on n'ait pas répondu dans l'Église, mais elle a eu raison de chercher la prière intérieure, la vie spirituelle intérieure. Une bienveillance, accepter de parfois se laisser déconcerter un peu. Je pense aussi à ces personnes en recherche, c'est des personnes qui nous témoignent d'expériences spirituelles chrétiennes, mais auxquelles on n'est pas habitué. Nous, prêtres, en accompagnement, en confession, on a régulièrement des personnes qui nous témoignent de visions, d'apparitions. On a envie de dire aux gens, bon, ça va, vous allez bien, vous suivez un traitement, est-ce qu'il est vrai que vous n'avez pas mangé depuis deux jours et que vous dépendez aussi Bon, il ne faut pas tout de suite tout prendre au pied de la lettre. Hein. Il y a des personnes qui ont des expériences spirituelles authentiques. C'est ce qu'on a dit à Sainte-Bernadette, elle a dit que Sainte-Bernadette est probablement malade, elle vient de nous raconter des histoires. Jusqu'au jour, on se rend compte que Mme Sainte-Bernadette avait effectivement vu la Vierge Marie. Donc, accepter de se laisser un peu déconcerter, de se laisser interpeller par des questions inhabituelles. Après ça, il y a une nécessité de discernement et d'accompagnement. Dans le syncrétisme actuel, les gens qui vont piocher à tous les râteliers, qui lisent plein de livres, qui parlent dans tous les sens, avec des bonnes choses, avec des très mauvaises choses, personne qui qui parlent dans des affabulations, et ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein. La gnose, les courants gnostiques, il y en a toujours eu. On dit que l'islam est né dans un gnosticisme chrétien qui foisonnait, ça partait dans tous les sens. Il y avait des vagues bases chrétiennes, mais quand on lit les écrits de cette époque-là, il y avait des affabulations qui disaient tout et n'importe quoi. Hein. Parfois des fictions. Aujourd'hui, les personnes qui ont vu un film qui parle des fantômes, des ancêtres qui se promènent, et qui disent « Ah oui, regarde, ça existe, on a vu la télé, la télé, ils l'ont bien vu. C'est une fiction, c'est un film, quoi. » Bon, parfois de l'imagination, parfois au contraire du rationalisme, des gens qui rationalisent, essayent de mettre des choses dans des cases, et puis inventer des mélanges de spirituel et de rationalisme qui n'ont pas fait bon ménage et qui amènent à des trucs un peu bizarres. La foi est rationnelle, non, pardon, elle n'est pas rationnelle, mais elle est raisonnable. Elle n'est pas rationnelle, c'est-à-dire qu'elle dépasse le simple mécanisme rationnel, au moment où on trouve spirituel, c'est une partie de notre être humain, de tout l'heure spirituel. Mais elle est raisonnable quand même. Notre foi est raisonnable. Une foi chrétienne, à partir du moment où on a un Dieu créateur, on est en relation avec quelqu'un qui a mis un ordre dans la création et qui nous permet de le découvrir. Voilà. Et pour terminer, cette première catégorie de démarche, le petit phrase de Jésus que je mets en exergue, c'est « Suis-moi ». Jésus nous invite à le suivre. Et donc on est invité à mettre les gens en contact avec le Christ. Ils ont une recherche spirituelle, ben celui qui va répondre à cette recherche, c'est Jésus. Cheminer avec lui. Et nous, à nous faire, c'est relais, enfin, à être le Christ qui invite à cheminer. Sommel se prend compte de Jésus avec Nicodème, où Nicodème pose des questions à Jésus, et puis Jésus lui dit, mais il vous faut renaître d'en haut. Il vous faut renaître d'en haut. Il vous faut renaître à une vie spirituelle. Très fort ce qu'il dit. Parfois, c'est des gens qui me disent, mais donc vous les catholiques, il faudrait peut-être vous renaître un peu à la vie spirituelle. Est-ce que votre religion elle est assez spirituelle? Est-ce qu'elle est assez élevée? Bon, en tout cas, c'est ce que Jésus dit à Nicodème. Et Jésus dit à Nicodème, toi qui es maître en Israël, tu ne sais pas ces choses-là. Comment ça se fait que toi qui connais si bien ta religion juive, qui est une religion tellement spirituelle, tu ne saches pas qu'il faut renaître de l'esprit? Voilà, alors de temps en temps, c'est à nous de nous laisser interpeller, de nous dire que c'est vrai, il faut que j'accompagne cette personne qui désire renaître à la vie spirituelle. Et parfois, c'est à nous de le dire aux personnes. Alors, Jésus vous propose de renaître à la vie spirituelle. Combien de personnes sont touchées par ces mots-là pour dire, mais c'est ça que je veux. Parle-moi de Jésus. Les personnes démarrent une démarche vers le baptême parce que on les a mis en contact avec Jésus qui leur propose ça. Enfin, on est appelé à témoigner. Témoigner d'eux. Alors, annoncer Jésus. Et puis aussi à leur annoncer Jésus par notre vie. Que notre témoignage de vie soit une annonce de celui qui nous anime. Nous demandons plutôt, par exemple, pour une fois, des personnes qui disent parlez-moi de celui qui vous amène, qui vous rassemble, que vous servez. C'est ce que disait Charles Foucault aussi. Vous savez, bien loin Charles Foucault, il est un peu canonisé. Il disait, dans ce monde musulman, je ne peux pas trop parler de Jésus. Mais je voudrais être bon pour que les personnes viennent me voir et me disent, parle-moi, être bon pour que les personnes aient envie de me demander qui est celui qui me rend si bon. Qui est celui que sert un homme si bon. Deuxième situation, le choc des religions ou des cultures. Parfois, ce n'est pas seulement une recherche de sens, mais parfois, c'est religion contre religion, culture contre culture. On rencontre des personnes, de religion musulmane par exemple, avec qui on est amené à parler de la foi. Pour rencontrer des personnes qui nous déconcertent dans des groupes chrétiens avec lesquels on n'est pas à l'aise, l'église évangélique, les sectes aussi, les témoins de Jéhovah, ou bien des groupes qui sont dans des recherches comme les gothiques, là, et même des groupes sataniques. Hein. Alors là, on a pour faire une recherche pour religieuse cette fois-ci, puisque les gens font partie d'un groupe, ils rejoignent un groupe, ils sont structurés, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement leur recherche personnelle, c'est important de distinguer ça. La personne qui a une recherche personnelle et qui cherche à voir la gauche, et la personne qui est marquée par la doctrine du groupe auquel elle a commencé à appartenir ou auquel elle appartient depuis longtemps. On peut décoller parce que quelqu'un qui témoigne de sa réflexion personnelle, on va déchirer avec elle. Mais la personne qui vous répète ce qu'a dit son gourou, son prêtre, son prof, son je ne sais pas quoi, son guide, son pasteur, c'est différent. Parce que pour là, on peut amener la personne à interroger la doctrine qu'elle a reçue. Pas longtemps au congrès mission à Rennes, il y a eu un enseignement sur le contact avec l'islam. C'était un musulman converti qui nous parlait et qui nous disait moi, quand je rencontre un musulman, maintenant, je lui demande comment est-ce que tu parles à Dieu? Comment est-ce que toi, tu lui parles? Qu'est-ce que tu lui dis? Comment c'est pour ta relation avec Dieu? Dieu, c'est quelqu'un pour toi? Tu penses que tu es quelqu'un pour lui? Alors, comment ça se passe entre vous deux? Là, il dit, en fait, les gens, c'est pas la question chez nous. Nous, quand on veut prier, on récite nos trucs, on sait à telle heure, telle heure, telle heure, on fait ci, on fait ça, et puis c'est bon, on a fait notre prière. C'est la question de la religion. Prendre une distance avec. Prendre une distance qui nous ramène à nos questions, finalement, à nos besoins personnels, face à une doctrine à laquelle on s'est attaché. Voilà. Pour mettre une distance. Donc, pardon, pour commencer, on peut quand même toujours avoir respect pour une religion, pour une personne spirituelle, pour un groupe. Même avec les témoins de Jéhovah, par exemple. Hein. C'est un peu un classique dans l'Église catholique de moquer des témoins de Jéhovah. Je crois que des témoins de Jéhovah qui viennent frapper à votre porte, ça aura du respect pour eux. S'ils le font, c'est pas parce qu'ils ont envie de gagner de l'argent ou bien je ne sais pas quoi, s'ils le font, c'est parce qu'ils y croient leur truc. Et qu'ils sortent de chez eux, ils vont frapper à la porte, et une deuxième et une troisième porte, parce qu'ils y croient, et ils disent bah, si c'est vrai, bah, on y va, et puis on s'engage. Jésus, il a dit allez deux par deux à l'enseignement du monde, et tout le monde, ils ont une vie qui. J'ai un cousin qui est témoin de Jéhovah, qui est prêtre témoin de Jéhovah, ça c'est. Il vit simplement, il essaie d'élever ses enfants, il a un petit job, ils ont toute leur vie en cohérence avec leur religion, et c'est pas un méchant gourou qui essaie d'engouiller les gens, c'est quelqu'un qui prend son truc. Donc on peut avoir du respect. Après ça, il faut aussi être capable de prendre une distance. On peut se tromper. Parfois, si c'est dans nos retranchements à nous catholiques, hein, ça suppose pour nous de nous former, comme vous le faites, François Hénet, bravo. Connaître sa culture chrétienne, fortifier sa religion. C'est un peu la phrase que j'ai mis pour conclure. Avec le Christ, avance au large, avance en eau profonde. Ça arrive assez souvent que quand on discute avec des gens d'autres religions, on se laisse piéger ou enfermer dans des petites questions. Pourquoi vous faites ci et pas ça? Pourquoi vous dites ci et vous dites ça? J'étais en préparation avec une catéchumène qui était très engagée dans les mouvements évangéliques. Alors, elle a beaucoup d'amis dans les mouvements, dans les groupes évangéliques. Ah oui, les groupes évangéliques qui disent que vous adorez Marie et il ne faut pas adorer Marie. Et puis ensuite, ils disent que vous dites le chapelet, il ne faut pas dire le chapelet parce que lui a dit qu'il ne fallait pas répéter, donc vous répétez, donc on se laisse embarquer dans les petites questions, et on se laisse enfermer. Avance au large, pousse en eau profonde. Qui est Jésus pour toi? Qu'est-ce que tu cherches dans la vie? Est-ce que Jésus t'interpelle? Est-ce qu'il a quelque chose à te dire? Est-ce que, plus profondément, le groupe auquel tu appartiens est un groupe qui est ton devis pour toi, pour ceux qui t'entourent, pour notre société, pour le monde? Comment est-ce que ça te donne un regard de Dieu sur l'humanité? Sur toute ton histoire? Et bien sûr, je pose une question pour notre religion chrétienne, notre religion catholique. Comment notre religion nous donne un regard large sur l'humanité, sur le monde, sur l'histoire? Pour notre communauté, et sur ceux qui ne sont pas comme nous, qui croient différemment. On regardera ce sujet avant cela. Et puis le dernier point, c'est les tensions au sein de l'Église. Alors là, c'est peut-être l'exemple que vous donniez tout à l'heure, une personne qui a été dans l'Église, elle n'a pas d'autre religion, mais son expérience fait qu'elle s'est retrouvée en tension avec l'Église. Alors elle cherche, elle réfléchit. Puis ça n'a pas l'air d'aboutir, comme s'il y avait une résistance, quelque chose qui dit j'ai pas envie de croire autre chose, mais cette culture qui a été la mienne, j'arrive plus à me sentir dedans. Évidemment, aujourd'hui, il y a aussi des scandales dans l'Église, que ce soit pour des personnes qui sont impliquées personnellement, qui ont été scandalisées, qui ont été blessées, qui ont été. Pas respecté, hein, en détail, hein, ou que ce soit par des personnes qui sont choquées de l'extérieur. Pourquoi j'apprends que l'Église a fait ci, s'est passé cela dans l'Église, comment c'est encore possible? Donc là, je crois que vraiment, première chose que nous répète la SIAZ, le rapport de la SIAZ et les évêques avant la SIAZ et après la SIAZ, c'est permettre de laisser la parole, accueillir avec bienveillance, être prêt à encaisser, être prêt à se déplacer, un peu dans une certaine ville parfois. Ah bon, il s'est passé ça, je n'ai jamais imaginé que c'était possible. Comment on t'a dit ça? Nous, c'est une très jeune prêtre ou une séminariste, on entend nos anciens nous raconter l'Église il y a 50 ans, et qu'on entend qu'on a refusé les cloches, on a refusé la première communion à un enfant parce que dans leur village, il n'y avait plus une école publique, et donc les parents ont mis leurs enfants à l'école publique, et maintenant il fallait faire les 5 km à pied pour aller à l'école catholique. Alors quand vous êtes allé à l'école publique, eh bien, il ne faut pas faire sa première communion. C'est possible qu'il y ait des trucs comme ça qui puissent exister. Là, c'est, on va se laisser un peu bousculer, déplacer, interpeller par l'expérience des autres. Parfois aussi, on essaie des choses qui sont fausses, mais que les gens ont besoin de sortir. Dans le parcours Alpha, on dit ça. Le parcours Alpha, vous savez, c'est le parcours de formation chrétienne pour des personnes en recherche. Et il y a un enseignement qui est assez général, avec une bonne place au témoignage. Et puis ensuite, il y a des sujets en petite tablée. Et la consigne qu'on donne aux personnes qui animent les petites tables, c'est surtout ne répondez pas. Si quelqu'un a des trucs à déballer, il faut lui permettre de sortir tout ce qu'elle a à dire, et parfois des horreurs. Parce que tant qu'elle n'aura pas dit ses horreurs, c'est comme si il y avait un amas de trucs qui bouchent la porte. Toutes ces horreurs, il faut qu'elle sorte, hein, puis ensuite, la porte sera libérée et la personne pourra écouter. Il faut commencer par écouter ce que les personnes ont à dire. Peut-être pas répondre, hein, mais pas prendre au sérieux ce que les gens disent, bien sûr. Mais, parfois aussi, Il faut voilà, un besoin religieux, une personne qui vit une colère, des récriminations, ça n'est pas pareil, ça n'aurait jamais dû exister, quand c'est possible, quand Dieu peut exister, s'il y a tout ça, bah, ça vit une expérience. Moi qui croyais que Dieu était bon, je vois les guerres de la famille, les enfants malheureux, etc. Bah, la personne a commencé par dire qu'elle croyait que Dieu était bon, qu'elle avait espéré que Dieu était bon. C'est une bonne nouvelle, ça. Écoutez derrière de la colère l'espérance qu'il y avait, l'espérance d'une personne. Voilà. Après ça, donc, quand ce sont des divisions qui interviennent, rechercher l'unité, et puis inviter à puiser à la source. Inviter à puiser à la source de la parole de Dieu. Inviter les gens à la prière. Difficile ce qu'ils disent, donc peut-être on peut prier. De le confier à Dieu, avec des personnes en fin de vie, combien de fois, c'est des choses qui réouvrent un horizon, qui permettent à des personnes de trouver la paix, de réouvrir le chemin de la prière. J'ai entendu plusieurs fois le témoignage. Et puis, dans les témoignages, la source, hein, c'est aussi la source de la fraternité. Être présent. Donner un témoignage de fraternité. Être présent. Au nom de notre foi, au nom du Christ, qui nous rend davantage hommes et femmes, qui nous rend davantage frères. Ça, c'est vivre tout ça par lui, par Jésus. Par lui qui fait l'unité, par lui qui apaise, par lui qui guérit, qui console, par Jésus qui est sauveur de l'autre, et qui est sauveur de moi aussi, de mon sauveur. Parce que je suis bousculé, je veux bien me rappeler que j'ai dit mon sauveur. Dans cette situation, je ne sais plus trop où j'en suis, je suis attaqué, bousculé, déstabilisé. C'est une autre unité. Voilà, je vais espérer qu'il y ait plus de temps pour des questions, mais on va quand même faire un peu de temps maintenant, puisque quoi qu'il nous reste. Pour vos questions. Nicodème, Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, l'évangile de Saint Jean.
Est-ce qu'il y a des questions ici?